Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis, à demain. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du jeudi 20 octobre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir par une démission devenue inévitable.
La démission de Liz Truss cet après-midi, la première ministre britannique qui a jeté l'éponge après seulement 44 jours poussée vers la sortie après une série d'erreurs politiques. Les conservateurs promettent de désigner un nouveau chef de gouvernement d'ici la fin du mois. Nous serons à Londres dans un instant. À suivre aussi le gouvernement français qui s'apprête, lui, à actionner le 49-3 pour la deuxième fois en deux jours à l'Assemblée. Bientôt un corridor sous-marin d'énergie verte entre Barcelone et Marseille. L'audition décevante du maire de Nice, Christian Estrosi, au procès de l'attentat du 14 juillet 2016. Et puis comment traduire Hitler, un traducteur qui a passé 10 ans sur Mein Kampf, raconte cette épreuve dans un livre.
À 18h15, un jour dans le monde, au Royaume-Uni, nous aussi, bien sûr, avec Liz Truss, vous le disiez, qui jette l'éponge, qui s'extirpe enfin d'une situation impossible, qui tente d'extirper aussi son parti de cette situation. Elle restera comme la première ministre au mandat le plus court de l'histoire moderne de son pays. Elle laisse un parti derrière elle, elle laisse un parti en chantier. Il y a beaucoup à dire et nous le ferons avec le grand invité de ce soir. À 19h20, c'est le téléphone sonne et c'est à vous de jouer. La Coupe du Monde au Qatar alors nous occupe. Ce soir, nous sommes pile un mois avant le début de cette compétition et toutes les cartes sont en main. Il n'y a plus rien que l'on ignore sur le Qatar aujourd'hui. Alors dans cette ligne droite-là, qu'est-ce que vous avez décidé ? Regardera, regardera pas ? Est-ce que vous vous privez de foot ? Au nom de quoi ? Ou est-ce que vous dites, attendez, c'est pas moi qui paye les mauvais choix et les embrouilles de la FIFA ? Vous nous le direz au 01 45 24 7000.
France Inter.
Elle rêvait donc de mettre ses pas dans ceux de Margaret Thatcher.
Mais Liz Truss sera restée 100 fois moins longtemps au pouvoir que son idole. 44 jours seulement, la première ministre britannique la plus éphémère de l'histoire de la Grande-Bretagne. Et sa démission tient en quelques secondes.
Je reconnais que vu la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élue par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour lui dire que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur.
Liz Truss qui démissionne donc devant le 10 Downing Street, c'était peu avant 15h cet après-midi. C'est la fin d'une crise politique qui dure depuis maintenant près de 6 semaines à Londres. Les précisions de Laura Calmus.
6 semaines au pouvoir, 44 jours de chaos, avec un feuilleton plein de rebondissements. À peine élu, tout a été mis entre parenthèses avec la mort de la reine et la période de deuil national. Fin septembre, Liz Truss présente son mini-budget, son plan économique et décide de baisser les impôts des plus riches, les impôts sur le revenu, sur les sociétés et sur les dividendes. Elle voulait également mettre en place un gel de 2 ans sur le prix des factures d'énergie. Mais son mini-budget crée la panique des marchés financiers. Même le FMI ainsi que la Banque d'Angleterre font part de leurs inquiétudes. Et sous pression, vendredi dernier, Liz Truss limoge son ministre des Finances. Le nouveau Jeremy Hunt décide d'abandonner la quasi-totalité de ce projet. La première ministre présente ses excuses, mais il est trop tard. Elle a perdu toute crédibilité. 16 députés conservateurs appelés à sa démission ce matin. La presse s'en donne à cœur joie. Des élections internes au sein du Parti conservateur auront lieu la semaine prochaine, le 28 octobre, avec déjà plusieurs potentiels candidats, dont Boris Johnson, qui, selon la presse, à l'intention de se représenter.
Laura Calmus à Londres, et on vient de l'entendre, c'est donc techniquement aux Tories de désigner le prochain chef du gouvernement, car les prochaines élections législatives ne sont pas prévues avant 2024 au Royaume-Uni, mais l'opposition travailliste ne veut pas attendre 2 ans de plus et demande déjà des élections législatives au plus vite. Alors que le Royaume-Uni affronte cette nouvelle tempête politique, l'Union européenne, elle essaye de préserver son unité. Sommet européen aujourd'hui à Bruxelles entre les 27 chefs d'État et de gouvernement. Un sommet avec un moteur franco-allemand qui cale ces derniers temps. Le président français allant jusqu'à déclarer qu'il n'était pas bon, je cite, pour l'Europe que l'Allemagne s'isole. Emmanuel Macron qui recevra Olaf Scholz, le chancelier allemand, mercredi prochain à l'Élysée. Sur le fond, il s'agissait de trouver une solution à la flambée des prix de l'énergie sur le continent, mais pas question à ce stade d'un plafonnement des prix du gaz, comme le voudrait la France. L'Allemagne s'y oppose. La France qui donc se tourne vers d'autres pays du Sud, l'Espagne et le Portugal. Les trois pays qui vont créer un corridor d'or d'énergie verte, une alternative à un gazoduc, le Midcat, dont Paris ne voulait pas. Explication Louise Baudet.
Le Midcat
démocrate est mort, vive le corridor vert. Lancé il y a bientôt 20 ans, le projet de gazoduc Midi-Catalogne visait à relier Barcelone à Carcassonne via les Pyrénées pour permettre à l'Espagne d'exporter du gaz naturel liquéfié venu par bateau des États-Unis ou du Qatar vers le reste de l'Europe. Projet soutenu par l'Allemagne qui y voit un moyen de réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Projet abandonné donc au profit d'un pipeline sous-marin entre Barcelone et Marseille pour transporter à terme de l'énergie verte, promet Emmanuel Macron.
L'objectif est de travailler à une interconnexion hydrogène et énergie renouvelable entre Barcelone et Marseille, laquelle pourrait être aussi doublée par là également des interconnexions électriques. L'objectif qui était aussi le nôtre de continuer notre stratégie de transition climatique et énergétique correspond à ce nouveau projet.
Un peu plus tôt, l'Espagnol Pedro Sanchez a parlé, lui, d'un pipeline pour l'hydrogène vert, mais aussi de façon transitoire pour le gaz. Le gaz, pas même évoqué par Emmanuel Macron, même si son staff concède que le fameux corridor vert pourra transporter une proportion limitée de gaz naturel comme source d'énergie temporaire et transitoire. Des précautions qui ne seront peut-être pas du goût du partenaire allemand. Bruxelles, Louise Baudet, France Inter.
On reste dans les questions énergétiques avec ce nouveau dispositif pour aider les Français à économiser du gaz cet hiver en cas de grand froid. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Ça s'appelle EcoGaz, ça fonctionne comme EcoWatt, une sorte de météo de notre consommation de gaz.
Oui, ou un baromètre du gaz qui doit permettre de dire s'il y a assez de gaz dans les gazoducs pour remplir la demande. Chaque jour, EcoGaz publiera des codes couleurs en se basant sur des prévisions à 5 jours. Vert, tout va bien, mais lorsque le signal passera à l'orange, EcoGaz enverra des alertes par SMS aux abonnés. En cas d'alerte rouge, il y aura des risques de coupure pour les industriels. Uniquement, les ménages ne sont pas concernés, mais comme les particuliers représentent plus de la moitié de la consommation de gaz en France, ils seront appelés à faire des efforts. Thierry Trouvé, directeur de GRT Gaz, le gestionnaire de transport.
Le fait de faire des économies tout au long de l'hiver permet d'éviter d'avoir à organiser des coupures obligées pour ces acteurs. Un degré, c'est 7% de consommation en moins et c'est aussi une économie sur sa facture. Ça permet de préserver les entreprises françaises qui font nos emplois et créent la richesse dans le pays.
Sur le site internet Mon EcoGaz, on trouvera des exemples d'éco-gestes. Attention à ne pas compléter son chauffage au gaz par un radiateur électrique. Cela conduirait à consommer encore plus, prévient Thierry Trouvé.
En réalité, pour faire fonctionner ce radiateur électrique, on va être obligé de solliciter une centrale à gaz qui va donc aller prendre du gaz dans les stockages de gaz. Et en plus, il se trouve que cette centrale, elle a un rendement qui fait qu'on va consommer deux fois plus de gaz pour le même résultat dans la maison.
En cet automne, les stocks de gaz sont pleins, dit-il, mais en fin d'hiver, en cas de froid, on pourrait connaître de véritables tensions sur le réseau du gaz.
Delphine Simon, puis sur le front du carburant, il ne reste plus que deux raffineries Total Energy en grève, Gonfreville en Normandie et Fezin près de Lyon. Une station essence sur cinq reste affectée par les pénuries.
Direction l'Assemblée nationale, Sébastien, où l'ambiance reste toujours très agitée.
Oui, le gouvernement a utilisé hier une première fois le 49-3 sur une partie du texte du budget de l'État. L'exécutif qui s'apprête à dégainer une nouvelle fois cet article-là sur le budget de la sécurité sociale. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir Sébastien.
En direct du Palais Bourbon, la discussion sur le budget de la Sécu a commencé et ça se passe déjà mal pour la majorité. Hein.
Oui, un petit air de déjà-vu cet après-midi ici à l'Assemblée. Des débats agités, vous l'avez dit, des oppositions qui s'en prennent au gouvernement. Est-il utile de débattre? Et puis un premier échec pour l'exécutif. L'article 1 du budget de la Sécurité sociale a été rejeté, tout un symbole. Encore une fois, la majorité n'avait pas fait le plein sur ses bancs, certains députés étant en commission ou absents. Alors depuis cette mise en minorité, on a vu des parlementaires Renaissance et des oppositions courir dans les couloirs de l'Assemblée, direction l'hémicycle. Les premiers pour éviter d'autres échecs, les autres pour arracher d'autres victoires. Alors évidemment, une grande question, un deuxième 49-3 en 24 heures se profile-t-il? Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, multiplie en tout cas les attaques contre la NUP et le RN. Vous faites tout pour bloquer, une manière peut-être de préparer le terrain. Une chose à savoir, Sébastien, seule la première ministre peut déclencher un 49-3 dans l'hémicycle. Tout le monde scrute donc le moindre indice, voiture officielle, gyrophare. Pour l'instant, rien à signaler, mais un 49-3 dès ce soir est bien possible, me confirme à l'instant un conseiller.
Et sans doute la reprise de la séance, Anne Souhaitement avec Alexandra Bergel en direct de l'Assemblée nationale. En attendant ce probable deuxième 49-3, le Rassemblement national lui a déposé sa motion de censure, mais la NUP NUP et la droite ont déjà prévenu qu'elles ne la voteraient pas. La France a procédé ce matin à un nouveau rapatriement de familles de djihadistes depuis la Syrie. 15 femmes et 40 enfants retenus dans des camps de prisonniers. 3 femmes sur les 15 devaient être présentées aujourd'hui à un juge antiterroriste. Les enfants, eux, seront pris en charge par l'État et par les départements, comme l'explique Charlotte Kobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance.
Ces enfants ont vécu des psychotraumatismes extrêmement lourds qu'il faut impérativement accompagner. Et là, l'ensemble de ces enfants va être pris en charge au niveau des agences régionales de santé par des équipes particulièrement formées sur ces mécanismes de psychotraumatisme. L'objectif, c'est d'abord de prendre un temps d'évaluation de la situation de chacun de ces enfants dans le département dont ils sont originaires ou dans le département dans lequel une partie de la famille est restée, le plus souvent en famille d'accueil, parfois dans des structures collectives qui ne sont jamais des grosses structures collectives. Et puis après, la protection judiciaire de la jeunesse, en lien avec les services du département, va être en lien avec la famille naturelle et va apprécier la capacité de la famille à récupérer les enfants. Régulièrement, la situation de ces enfants sera revisitée pour voir comment ils évoluent. Notre devoir est de les protéger, de les accompagner et de faire en sorte qu'ils retrouvent la vie la plus sereine possible comme n'importe quelle victime de terrorisme. Et
Charlotte Kobel avec Anne Orenstein. Son audition risque de décevoir les victimes. Christian Estrosi est aujourd'hui à la barre du procès de l'attentat de Nice. L'ancien adjoint à la sécurité, actuellement maire de la ville, est interrogé sur son dispositif de sécurité le soir du 14 juillet 2016, nettement sous-évalué. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Plus de 3 heures d'audition déjà, mais pas sûr que les parties civiles aient les réponses à leurs questions.
À peine arrivé à la barre, Christian Estrosi promet il n'éludera aucune question. Mais avant cela, il tient à rappeler certaines choses. Sa naissance à Nice, dans une famille modeste d'immigrés italiens. Ce jour de 60 où, tenant la main de ma mère du haut de mes 5 ans, je regarde le général de Gaulle remonter la promenade des Anglais, puis son propre vécu de cette nuit-là, l'orchestre et le boléro de Ravel qu'il écoute avant l'attentat, et après les premiers appels à ses filles, sa compagne, pour leur dire de ne pas s'inquiéter, que j'allais bien. Ses enfants, ses mamans, ses papas que j'ai pris toute la nuit dans mes bras, face auxquels je n'avais pas le droit d'afficher la moindre faiblesse, mais aussi l'appel de François Hollande avec la familiarité de personnages publics qui se connaissent bien, ou celui du pape François. Il m'a dit « Que puis-je faire pour vous ?» J'ai senti la chaleur dans sa voix. Alors, parce qu'il a bien fallu y venir, il a aussi été question de sécurité. Les 1836 caméras de la ville à l'époque, la police municipale armée, renforcée sous son premier mandat. Quant aux 11 repérages effectués par le terroriste avant l'attentat, captés par les caméras, pour les repérer, il aurait fallu recourir à l'intelligence artificielle et d'ajouter dans une réponse là encore très politique, je le réclame depuis de nombreuses années.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de Paris avec Alexandra Bergel.
On termine, Sébastien, avec un traducteur éprouvé par 10 ans de travail sur Mein Kampf.
Olivier Manoni a passé en effet une décennie à traduire le livre d'Adolf Hitler. De cette expérience pénible et instructive, il a tiré un court essai qui paraît ces jours-ci, Traduire Hitler. Et il y raconte comment cette descente dans les tréfonds d'une langue violente et confuse lui a permis de mieux saisir les menaces qui pèsent aujourd'hui encore sur les démocraties, Léna Mori-Youssef.
Oui, parmi les 5000 livres qui peuplent la bibliothèque d'Olivier Manoni, on trouve tout ce que l'Europe germanophone compte de génies et de salauds. Les salauds sont une minorité, mais ils ont pris beaucoup de place dans sa vie, car au fil des ans, Olivier Manoni est devenu en quelque sorte le traducteur spécialiste des textes de l'époque nazie. Mais aucun livre, jamais, ne lui a donné autant de fil à retordre que Mein Kampf.
J'ai découvert en fait un type de texte dont je pense que j'avais jamais compris le fonctionnement, c'est-à-dire un texte glacial et très violent et extraordinairement confus. C'est un texte dont la traduction implique de descendre jusqu'au tréfonds du langage et qui utilise des techniques de langage très marquées, puisque c'est le langage d'une époque, mais extrêmement actuel.
Ces techniques, souligne Olivier Manoni, on les retrouve aujourd'hui dans les discours de l'extrême droite et chez les complotistes. D'ailleurs, dans le séminaire de traduction qu'il anime tous les samedis, Manoni consacre toujours une séance à la langue des dictateurs.
J'explique à mes étudiants que la traduction des mots n'est pas du tout de la traduction. Le travail du traducteur, c'est de retourner en permanence les mots pour savoir ce qu'ils cachent. C'est derrière les mots qu'il faut aller chercher ce qu'est un texte, ce que dit l'auteur. Et là, ce travail que j'ai mené avec les historiens de historiciser le mal a consisté à aller jusqu'au bout du creusement.
Et au bout des 10 ans, quand la traduction de Mein Kampf a été terminée, l'épouse d'Olivier Mannoni a retourné tous les livres où s'affichait le nom d'Hitler. Sa présence avait fini par rendre l'atmosphère irrespirable.
Ilana Mor-Youssef, merci. Traduire Hitler d'Olivier Mannoni, c'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.
Merci beaucoup Sébastien Logénie. On se retrouve tout de suite, Sébastien, dans Un jour dans le monde. Vous allez nous parler notamment d'un mur dont on parle très sérieusement.
En effet.
Entre la Finlande et la Russie. Ce soir, bien sûr, nous sommes au Royaume-Uni pour analyser le départ de Liz Truss et puis ce qui va surtout se passer derrière au Royaume-Uni. À 19h20, c'est le téléphone sonne, c'est à vous de jouer. Ce soir, on parle de foot et de Qatar. La ligne, Cantona, c'est non, pas question de jeter un œil sur cette compétition. La ligne d'une majorité de gens, au-dessus de 60%, c'est ce que disent tous les sondages. C'est aussi de se dire qu'on ne va pas se faire du mal à soi quand on adore le foot, même si on n'en pense pas moins. Quelle décision de l'intime que cette décision-là. On en discute bien sûr ensemble au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Élodie Calac, bonsoir. Les pluies se renforcent sur les Cévennes.
Oui, bonsoir à tous. En effet, ce soir et cette nuit, les pluies peuvent être intenses et s'accompagner d'orages. Des débordements de cours d'eau sont à craindre. L'Ardèche est particulièrement impactée, placée en vigilance orange pour pluie et pour crue. Ce temps va persister demain et puis les plus marquées gagneront aussi vers les Alpes et le Jura. Sur les Pyrénées, encore de la pluie et du vent. Ailleurs, quelques averses orageuses possibles ce soir et cette nuit. Elles peuvent être musclées vers le centre Val-de-Loire, le bassin parisien, sur le nord-est également, du massif central au nord-est. Demain, il restera quelques averses sous un ciel encombré. Et puis en allant vers le nord-ouest, des éclaircies s'imposeront. Demain, il y aura tout de même quelques averses et du vent de la Bretagne au Pas-de-Calais.
Et une ambiance encore très très douce.
Avec 14 à 20 degrés le matin et puis l'après-midi, souvent 17 à 23 degrés, jusqu'à 23 à 28 degrés encore du sud-ouest à la Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.